sur À Tour de Bulle 2021 avec Félix Zelay à l'occasion du prix reçu l'année dernière, le prix Tour d'Ivoire pour le Château des Animaux. Bonjour.
Bonjour tout le monde, bonjour à vous.
On va déjà présenter le Château des Animaux, s'il vous plaît.
Le Château des Animaux, c'est une sorte de, on va dire, de suite spirituelle de la ferme des animaux d'Orwell. Donc Xavier l'avait, enfin, a écrit le scénario, Xavier Doraison, c'est le scénariste de la BD. Il a écrit le scénario suite à la forte impression que lui avait fait la ferme des animaux dans son enfance. Mais la ferme des animaux, c'est une révolution menée par les animaux de la ferme, désolé pour la répétition, pour renverser l'humain qui tient... Il tient la ferme de manière assez dure. Et malheureusement, la révolution tourne mal et rétablit une dictature. L'ambition que Xavier, c'était de dessiner une sorte de chemin, mais, et aussi de faire une vraie histoire d'aventure assez intéressante. Et donc de dessiner une sorte de chemin où la révolution peut mener à quelque chose de peut-être plus positif, mais se heurtera forcément à la violence, et donc la révolution dans le Château des Animaux se fait par la désobéissance civile. Évidemment, ça crée plein de situations avec le régime en place qui réagit, lui, avec violence à cette désobéissance, et les animaux qui sont livrés à toutes ces forces, je ne sais pas comment le dire beaucoup mieux. Mais très bonne BD, j'espère.
Est-ce que vous avez pu passer dans la petite exposition qui est consacrée à l'album ou...
Oui, donc il y a une expo au festival à Tour de Bulle qui retrace pas mal les inspirations de Xavier pour le scénario et les inspirations graphiques, et aussi la façon de travailler sur l'album, parce que c'était un axe qui nous paraissait intéressant, et de montrer comment se créer une page de bande dessinée. Et il y a aussi quelques planches originales, mais il n'y en a pas beaucoup, parce que moi j'ai fait juste 5 planches, et après j'étais beaucoup trop lent, du coup on m'a dit bon, ça va être un peu long. Donc bon, j'ai fait tout le reste en numérique. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Il y a aussi pas mal d'inspiration livresque, pas mal de livres anciens de Xavier. C'est très chouette expo.
Et donc vous avez participé à la création de l'expo ou pas du tout?
Oui, du coup on a parlé avec le festival et Juliette plus précisément qui s'en occupait. Et c'est avec elle qu'on a dégagé cet axe de vraiment se baser sur le processus de création et les inspirations. Et après il y a eu des échanges et par Zoom et par mail, et puis après c'est le festival qui a fait toute la scénographie, et puis c'est vraiment très chouette.
On parle beaucoup donc dans l'exposition de vos influences d'animation. Je parle plutôt de Brisby le Secret de Nîmes ou Robin des Bois de Disney. Mais est-ce que vous aviez aussi des inspirations non animées, on va dire, autres que Benjamin Rabier?
La BD se passe au début du XXe siècle, donc pour moi c'était assez important que les couleurs soient assez... que le graphisme rappelle aussi cette époque. C'est pour ça qu'on est parti sur une sorte de graphisme à la un peu vieux Disney et tout. Et donc après, moi je me suis aussi inspiré de tout ce qui pouvait se faire en aquarelle, même si moi c'est pas de l'aquarelle la couleur, mais... C'est une sorte de fausse aquarelle pour justement ramener le lecteur dans cette époque par à peu près tout le graphisme, enfin toute la forme, ouais, parce que le fond c'est Xavier, mais moi mon job c'est juste de faire que la forme souligne le fond autant que possible. Et donc mes inspirations c'était, bon, il y avait tous les deux Disney, mais il y avait aussi beaucoup de BD faites à l'aquarelle. Après il y a évidemment Guarnido qui était une belle inspiration, parce que c'est lui qui a pavé le chemin de la BD animalière franco-belge quand même assez fortement. Mais il y avait aussi Machereau, et puis il y avait aussi une BD qui m'a vraiment vachement marqué, c'est un docteur Poche qui s'appelle La planète des chats. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été faite, mais ça doit être années 70. Et vraiment, il y a une sorte de poésie dans cette BD-là. Et après, j'ai des... inspirations graphiques qui vont de Wendling à Franquin. Au niveau des animaux, c'est juste extraordinaire ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'était à peu près toutes mes inspirations qui étaient là-dedans.
Les animaux, c'est une passion que vous avez depuis tout petit. On a rencontré des auteurs qui nous disent que voilà, ils ont vécu, façon de parler, à la ferme. Donc du coup, dessiner n'importe quel animal, pour eux, c'est un peu leur quotidien. Par contre, dessiner une voiture, c'est impossible. Vous, vous avez aussi ce côté-là. L'animal, pour vous, c'est fluide.
Bah oui, moi j'ai à peu près toujours dessiné les animaux. En fait, quand j'étais petit, j'avais mon frère qui était assez spécial, et puis c'était le enfer, alors je le suivais dans absolument tout. Et il était vraiment hyper énergique, et il était passionné d'ornithologie, passionné d'à peu près tout, et puis du coup, je l'accompagnais au petit matin pour aller voir l'oiseau qui serait à cet endroit-là, et tout. Et après, on dessinait vraiment beaucoup ensemble, et quasiment, au final, quasiment toujours que des animaux.
Et est-ce que vous voulez être toujours le plus réaliste possible, façon de parler, ou est-ce que vous vous permettez de temps en temps mettre un peu votre patte et de rajouter un petit quelque chose qui n'est pas un anachronisme, mais...
En tout cas, dans le travail sur le design des animaux, c'était assez obligatoire de pas être trop réaliste, parce que sinon c'est assez dur de faire passer des émotions humaines sur des visages vraiment animaux. Et donc sur beaucoup d'animaux, surtout beaucoup d'animaux qui sont en général des animaux des proies, on va dire. Quasiment toutes les proies ont leurs yeux sur les côtés de la tête pour pouvoir voir à 360 degrés et puis pour réagir à toute menace. J'étais un peu obligé de mettre leurs yeux un peu plus de manière humaine, un peu plus frontalement, quoi. Et donc ça, c'est le travail de car design, de vraiment retirer, de trouver une sorte d'équilibre entre l'animalité et l'humanité. Donc ça, c'était assez intéressant à faire. C'était surtout dur sur le taureau. Il y a des moments où c'est... Enfin, pour le récit, il fallait faire des sortes de vues en contre-plongée et tout. Et alors, une vue de contre-plongée d'un taureau normal, c'est... Enfin, on peut pas lire l'expression, alors il faut trouver des trucs pour que ça passe. On se dit, ok, non, c'est bon, et que ce soit pas choquant. Et cette partie-là du travail, c'est assez marrant, mais assez compliqué. C'était surtout ça. Après, tout le reste, il y a aussi dans l'acting des personnages. Assez souvent, ils sont très animaux, mais il y a aussi plein de moments où ils sont beaucoup plus humains, ils se tiennent sur leurs deux pattes et ils font pas mal de choses qu'ils feraient pas en réalité, mais c'était ces deux choses-là qui sortaient de l'animalité, on va dire.
Au niveau des couvertures, est-ce que vous avez eu un cahier des charges très précis, ou est-ce que c'est vous qui avez choisi comment mettre en scène ces couvertures, puisque la première, justement, le taureau, il est vraiment hyper imposant, mais hyper attractif aussi, en fait pour ouvrir l'album.
La couverture du tome 1, c'était vraiment Xavier qui avait pensé ça, mais vraiment au moment d'écrire son histoire. Donc c'est en fait une scène qui se passe dans le tome 2. Et donc il y a le taureau Silvio dans une composition un tout petit peu à la Vermeer, avec une seule source de lumière, la fenêtre, et puis le pavé en damier pour donner une sorte de perspective à la scène. Pour ça, lui, il avait vraiment pensé le truc depuis le début, et j'ai complètement essayé de transcrire son idée. Et après, pour le tome 2, c'était un peu... Il n'y avait pas d'idée à la base, on a juste discuté, fait des propositions avec l'éditeur, avec Xavier, et on est arrivé sur ce résultat-là. Sur les couvertures des luxe, enfin des éditions luxe, c'est toujours un petit peu plus libre, parce que il y a moins de... C'est moins important pour l'éditeur que ce soit hyper précis. Mais donc voilà, là, à ce moment-là, on se fait un peu plus plaisir, entre guillemets, parce que faire les autres, c'est aussi chouette, mais c'est un peu moins de pression, c'est sûr. Les couvertures normales, c'est vraiment beaucoup d'allers-retours. Et...
Est-ce que vous pouvez nous rappeler en combien de tomes c'est prévu?
C'est une histoire prévue en 4 tomes. Ça se passe au château sur une assez... Enfin, pas une très longue période, mais à peu près une année, on va dire. Ça commence en automne, après tome 2, c'est l'hiver. Tome 3, on arrive dans le printemps. Enfin, ça commence en hiver, mais assez rapidement, le printemps arrive. Et donc, voilà, le tome 4, évidemment, ça continue et ça se finit. Grosso modo, c'est une histoire qui dure une année dans l'histoire. Et du coup, c'est hyper agréable à dessiner, parce que je peux dessiner tout toutes les saisons. Moi, ouais, ça me fait très plaisir. Et j'espère que ça rend aussi l'histoire intéressante graphiquement, et puis ça nourrit vraiment le propos, parce que c'est une sorte de longue résistance, et Ouais, évidemment, ce genre de truc, la désobéissance civile, ça se règle pas en deux semaines, quoi.
Le fait d'avoir ces saisons différentes, vous disiez que là, vous étiez passé en numérique, du coup, pour la rapidité du travail. Est-ce que ça change aussi votre façon de réagir par rapport au dessin aussi, le fait d'être dans des saisons différentes? Est-ce que c'est bête à dire, mais l'été, il y aura plus d'ombre à travailler, ou est-ce que ça change quelque chose d'avoir différentes saisons pour vous?
Il y a surtout une saison qui change tout, c'est l'hiver. Parce que l'hiver, c'est hyper particulier. Évidemment, le trois quarts du décor est blanc, entre guillemets. La neige, ça réagit à la lumière de plein de manières différentes. Et c'est hyper intéressant parce que tu peux complètement faire disparaître des formes sous la neige. Et donc, c'est une sorte de travail beaucoup plus graphique, on va dire. Enfin, j'avais l'impression en tout cas que c'était plus travailler avec des sortes de grandes masses et puis avec des grandes ombres qui vont couler sur la neige et puis définir un peu les plans et on peut vraiment faire des trucs assez dramatiques avec ça. Et mais après toutes les autres saisons, ça tourne un peu plus autour des mêmes codes, c'est juste une histoire de lumière. Mais par contre c'est hyper agréable de rechercher ça, mais c'est vrai que la saison d'hiver, ça, c'est vraiment hyper intéressant à dessiner.
Donc l'année dernière, vous avez eu le prix Tour d'Ivoire à Tours, du coup. Vous avez donc dessiné l'affiche de cette année. Comment ça s'est passé, la création de cette affiche?
La création de cette affiche, c'était, je crois, je ne sais plus pendant quel confinement, mais c'était pendant le confinement. Le thème de cette année, en soi, c'était désobéissance. En fait, dans l'affiche, le but, c'était de à la fois rappeler la ville de Tours, évidemment, montrer que c'est un festival de lecture et de bande dessinée. Puis là, il y avait le thème de désobéissance, mais je crois que j'avais passé un peu trop de temps enfermé parce que j'avais vraiment super envie de faire une image qui soit un peu juste libératrice et agréable et ensoleillée. Et donc on est un peu parti sur cette idée de faire une sorte de maison de livres dans lesquelles les animaux se prêtent à la lecture. Et ça rappelait un petit peu Gaston Lagaffe dans son espèce de grotte de livres. Là, ouais, c'était vraiment ça, ouais, qui me faisait rigoler comme idée. Et puis on a fait plein d'allers-retours avec le festival. Et ils ont été d'accord, du coup c'était hyper sympa de leur part. Quoi.
Maintenant que vous êtes libéré, du coup les dédicaces reprennent, vous avez beaucoup de succès là sur le festival, on a pu voir des gens qui voulaient absolument vous rencontrer. Est-ce qu'il y a des échanges qui vous ont marqué hier?
Oui, il y avait plusieurs choses, mais il y avait des trucs juste purement rigolos, mais il y a aussi une fille qui est passé. Ouais, du coup là c'était pas pour moi directement, c'était pour Xavier, mais du coup elle est arrivée en disant que c'était son père qui lui avait fait découvrir la BD, et puis il y avait cette histoire de transmission de passion générationnelle qui était assez belle. Du coup elle a appelé son père pour le passer au téléphone à Xavier, et c'était hyper hyper mignon, hyper touchant.
Je vais vous proposer 5 instruments de musique et vous pouvez en prendre un parmi les 5. Vous pouvez choisir entre l'ocarina de Link du jeu vidéo Zelda, la guitare de Miguel du dessin animé Coco, l'harmonica du film Il était une fois dans l'Ouest, l'orgue du Capitaine Nemo ou le saxophone de Lisa Simpson. Vous prendriez quoi?
Après, je pense que je prendrais l'ocarina. c'est trop tentant, on peut faire plein de choses folles avec, alors bon, c'est... Ah bah oui, je saurais pas vraiment quoi dire là-dessus, mais qui choisirait pas l'ocarina?
Un dernier mot pour conclure?
Ben, merci beaucoup pour l'interview, c'est hyper sympa, et puis j'espère que la lecture de la BD vous plaira si vous la lisez. À bientôt pour les deux derniers tomes, gros bisous.
Merci
à vous.